Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il est 8h02 ce vendredi matin. Quel plaisir de vous retrouver pour le MAC de l'IMO. Alors, il y a ceux qui se sont levés tôt, qui ont suivi la couverture de l'actu immobilière qu'on a faite jusqu'à maintenant. Pour les autres, c'est pas grave. Vous pouvez retrouver toutes les interviews, toutes les chroniques de la rédaction disponibles sur notre site radio.imo.fr, sur notre application éponyme et sur les agrégateurs de podcasts. Tout cela sera accessible dans mon d'une heure. Toutes les composantes de cette émission, le MAC de l'IMO, peuvent être réécoutées, relayées, visionnées. Allez, on attaque la deuxième heure de cette émission. Vous le savez, cette partie est consacrée à notre grand témoin. Quel témoin ? Christine Lecomte, elle est présidente de l'Ordre des architectes qui représente quelque chose d'assez puissant. Christine Lecomte, vous allez nous dire, nous donner les grandes masses. D'abord, bonjour encore une deuxième fois.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Parce que vous êtes arrivé tôt, formidable, efficace, matinal. Combien d'architectes ça représente, l'ordre des architectes que vous présidez, pour qu'on se rende compte un petit peu de la puissance de cette organisation ?
Bah écoutez, c'est simple, on représente l'ensemble des architectes puisque on a 30 000 professionnels qui sont répartis dans toute la France. Et pour donner une idée, on en a 10 000 en Île-de-France, par exemple. Et ensuite, on a 17 conseils régionaux avec des élus et donc 300 élus. Donc on a une répartition territoriale extrêmement intéressante pour être au plus près des élus notamment et des habitants.
C'est magnifique parce qu'on parle énormément de logement. Il faut construire. Comment ? Pourquoi ? Et on va aborder ces questions-là. Alors on a envie de cerner un petit peu plus votre personnalité et pour cela, j'ai une question un petit peu à côté, c'est-à-dire, est-ce que avec toutes les responsabilités que vous avez sur des sujets, des enjeux majeurs, vous avez le temps de choses un petit peu différentes, extrascolaires comme on dit. Qu'est-ce que vous aimez ? On m'a dit que la cuisine, ça fait partie de vos hobbies.
Oui, oui. Alors autant j'aime bien cuisiner, même dès que j'ai le temps, hein, ça c'est sûr. Après, ce que j'aime aussi, c'est découvrir, parce qu'il y a un lien très fort entre cuisine et architecture. Je crois que un cuisinier qui appréhende ses produits de la même manière qu'un architecte travaille avec ses matériaux, il y a une espèce de similarité. Et donc voilà, j'aime bien découvrir de nouvelles cuisines, des nouveaux cuisiniers. J'ai beaucoup d'amis cuisiniers d'ailleurs, et ça fait partie de découvertes de week-end notamment.
Et alors c'est vrai que le week-end, souvent on cuisine, et puis il y en a qui font du sport. Alors quel est votre sport de cœur, si j'ose dire?
Bon alors bah tout. Ceux qui me connaissent le savent, j'aime la gymnastique rythmique.
Vous êtes venu avec votre cerceau, votre ballon, j'espère.
Voilà, non, c'est ça, oui, exactement. Non, en fait, bon, j'aime tous les sports. Voilà, c'est clair. J'étais par exemple au Stade de France lundi soir, donc vous voyez, c'est très large. Mais surtout, enfin, j'aime la gymnastique et la danse pour le rapport à l'espace et au corps. Et c'est encore une question de créativité, de chorégraphie, de manière de se mouvoir. Je crois que c'est ça qui en fait m'importe, c'est comment est-ce qu'on se meut dans l'espace et comment est-ce qu'on on est sur Terre en fait. Et ce sport-là, c'est un sport d'exigence et de rigueur aussi. Moi, ça m'a beaucoup appris.
Oui, vous l'avez pratiqué vous-même, vous êtes passé, je crois, au niveau d'enseignement, même dans ce domaine, parce qu'on les voit, ces jeunes filles, en général, à la silhouette vraiment très très fine, magnifique, et ça donne cette impression de facilité. Là, je parle au niveau des JO, j'espère qu'on verra ça au JO 2024 avec de belles championnes françaises, mais au-delà de la facilité, il y a derrière un travail des heures au quotidien, avec même un corps qui souffre parfois.
Oui, enfin, c'est de la rigueur, hein, voilà, c'est la rigueur, c'est la répétition, c'est la volonté, c'est l'acharnement, c'est l'envie de faire. Et ça, c'est aussi une caractéristique d'architecture. Et puis, c'est toute la créativité qu'il y a derrière. Et ça aussi, enfin voilà, c'est vraiment un beau mélange.
Donc, vous avez pratiqué, vous étiez sur la poutre, on essaie de vous imaginer.
Alors, non, c'est pas sur la poutre, non. Moi, j'ai fait vraiment la gymnastique rythmique. Donc, c'est avec le ruban, le cerceau, etc. Et effectivement, j'ai fait un double cursus. Autant prof de gymnastique rythmique qu'architecte. Oh, j'ai payé mes études d'architecture en enseignant à mes élèves. Et puis, à un moment donné, on fait un choix parce que, voilà, l'architecture était au-dessus. Mais J'avoue que de temps en temps, je retourne, j'ai toujours ma licence et je retourne au gymnase régulièrement avec ma petite belle-fille qui était au championnat de France la semaine dernière. Donc
excellent,
voilà.
Excellent. Et effectivement, c'est intéressant ce filon parce qu'on se pose des questions sur cette discipline souvent on regarde sans connaître les coulisses. Je me suis toujours demandé les musiques, dans quelle mesure ça joue. C'est-à-dire quand on voit ces championnes, c'est vrai que ce sont des sportifs, mais je trouve que c'est tellement exigeant que je parle de championne. Selon le rythme, les musiques choisies, eh bien, on emporte les lauriers. Et puis, on sait qu'il y a un jury quand même qui regarde l'exactitude des figures. Dans quelle mesure ça joue ? Parfois, on se dit, s'il avait choisi une autre musique plus entraînante, peut-être ça aurait marché.
C'est clair. Après, si vous me lancez sur le sujet, je vais tout vous raconter. Mais en fait, il y a un rapport au corps qui est différent selon les engins de gymnastique. Le ruban, vous devez l'éloigner le plus possible. Donc, il faut mieux choisir des musiques rythmiques. Le ballon, vous devez le rapprocher de votre corps, c'est beaucoup plus sensuel. Donc là, vous êtes dans des musiques plus lentes ou alors vous avez une volonté, voilà. Et ça, c'est aussi intéressant, c'est des choix. Pour moi, ça se rapproche très fortement de la conception architecturale parce qu'il y a des choix à faire.
Eh bien, c'est ça qu'on sent. Dès que vous parlez d'un sujet, vous entrez dedans, c'est pas juste un hobby, et vous en tirez la quintessence. C'est un petit peu ce qui est ressorti quand on a tendu le micro à l'un de vos amis pour cerner votre personnalité. Enfin, qui de mieux que l'entourage pour savoir comment vous paraissez. Et Yves Deloison, journaliste par ailleurs, beau métier, nous a confié quelques réflexions. On va l'écouter. Yves Deloison, bonjour. Vous faites des documentaires, vous êtes journaliste, vous croisez plein de gens, mais l'une d'elles, c'est votre amie Christine Lecomte. Quelle qualité vous rapproche ?
Je pense que c'est avant tout les convictions. Christine, c'est une femme de conviction. C'est quelqu'un qui a une énergie incroyable, qui est vraiment sur tous les fronts. Et puis... Je pense que sa pensée, moi, que je trouve d'une grande modernité, parce qu'en prise vraiment avec toutes les problématiques qui, moi, m'intéressent, je pense aux questions climatiques, environnementales, les questions d'urbanisme, etc., je trouve qu'elle a une vision très, très juste, enfin, qui correspond à ma vision de la société. Elle est très engagée, elle est dans un univers en plus qui est quand même très pétri de culture patriarcale, et en même temps elle réussit à convaincre, à emporter les gens avec elle. Donc c'est vraiment quelqu'un qui porte un message pour moi, qui a une vision assez brillante et clairvoyante.
Alors avec ses amis, on parle de valeurs communes, mais pas seulement de boulot. Que faites-vous ensemble, des expositions, qui aime-t-elle?
Alors Christine, c'est quelqu'un de très convivial, c'est quelqu'un de très généreux, c'est quelqu'un qui aime les échanges, donc on parle énormément, on mange beaucoup, on adore la bouffe. Je crois qu'on partage vraiment aussi ce plaisir-là, cette envie de bien manger, ces questions de terroir, etc. Et puis on marche. Moi, je vis en partie dans le Cotentin, et Christine vit aussi en Normandie, donc on se retrouve souvent dans les endroits qu'on aime beaucoup. On partage aussi un amour de ces territoires magnifiques.
Merci Yves Deloison pour ce témoignage. Alors, c'est bien, voilà, on sent que c'est ce côté éclectique, hein, vous êtes à l'aise aussi bien quand on parle de cuisine ou de sport. Et puis, il dit des choses, hein, effectivement, c'est quelqu'un de très convivial. Mais comment vous faites avec toutes les responsabilités, ces discours, ces réunions ministérielles, pour en plus être bonne vivante comme il semble vous décrire? C'est un choix ou ça vous vient naturellement? Comment vous organisez?
Je sais pas trop. Non, en fait, si. Bon, déjà, j'ai un compagnon qui m'aide beaucoup, ça c'est clair. Hein. On a quand même 4 enfants à gérer, mais après, voilà, quand on a des moments... en fait, quand on a une vie à 100 à l'heure la semaine, le week-end, il faut en profiter pour voir ses amis, pour retrouver un peu du bon temps. temps. Et puis, c'est vrai que la marche, j'en parle pas tellement, mais effectivement, moi, si je pouvais marcher tous les jours, 3-4 heures, si j'avais pu venir en marchant là pour venir vous rejoindre, ça m'aurait beaucoup plu. Voilà, et puis il y a une conviction que je partage avec Yves et dont il a un tout petit peu parlé, c'est la question de la femme dans la société, la question de la femme dans nos métiers, en règle générale. Et voilà, je pense qu'on s'est déjà retrouvés là-dessus. Hein. C'est un ami que j'ai connu tardivement, mais avec qui on a un lien là-dessus aussi, et qui a un regard particulièrement intéressant sur la place et l'égalité homme-femme.
Oui, c'est pas rien. J'aimerais revenir sur ce parcours en tant que femme, arrivée à la tête d'un ordre d'architecture où il y a tellement d'enjeux, effectivement. Il y a relativement quand même peu de femmes dans ces domaines qui sont les nôtres. Et donc, alors, est-ce que ça vous a paru naturel, ou cette culture patriarcale, effectivement, qui évoque de Loison, ça a occasionné quelques écueils, quelques difficultés. Il a fallu faire des tactiques pour arriver au sommet d'une institution que vous voulez faire bouger. On va en parler.
Alors non, il n'y a pas eu besoin de tactique, parce qu'en fait, je pense que l'investissement et l'engagement c'était là. Ensuite, on a quand même pas que des hommes qui mettent des bâtons dans les roues aux femmes, hein. On en a aussi qui nous portent. Moi, j'ai été secrétaire générale avant d'être présidente d'un président qui s'appelait Jean-Michel Daquin, architecte qui a été vraiment un bon, on va dire, compagnon de route pendant longtemps, et qui m'a aussi aidé à voilà avoir envie de continuer. Mais surtout, je crois que ce qui est étonnant, c'est qu'il faut pas se laisser démonter. Parce que ce qui est très difficile, c'est quand on vous invite dans une assemblée où finalement, à part la personne qui place les gens, vous êtes la seule femme.
C'est ça.
Et ça nous arrive assez régulièrement. Et là, vous vous dites, mais ils sont tous en costard, cravate. Ils ont tous entre 50 et 65 ans. Et moi, je vais aller leur dire que finalement, il va falloir penser autrement. Et c'est pas évident, cette posture.
Et comment on fait ça? On s'est posé parfois la question dans la société, pour des sujets analogues sur les couleurs, hein, sur la diversité de sexe, de l'affirmative action telle qu'elle a été conçue aux États-Unis. Est-ce que ça passe par des lois? Est-ce que ça pourrait être pensable, même dans votre secteur, de dire, tiens, voilà, il faut tant d'architectes femmes? C'est des choses délicates.
Hein. Non, alors déjà, une chose, hein, lors des architectes, nous, nos élections sont paritaires. Pour qu'il y ait une représentativité d'une profession qui se féminise fortement. Alors, on nous dit qu'elle se féminise parce qu'elle se paupérise. Moi, ce que je vois surtout et ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'on a des femmes brillantes en architecture qui sont très peu mises sur le devant de la scène, trop peu mises.
On va peut-être les citer, c'est l'occasion.
Oui, oui, on peut en citer. Hein. Voilà, moi, je pense, on en a qui sont assez déjà connues, Corinne Vezzoni, Ingrid Taillandier, dans les domaines notamment du logement ou de l'aménagement de la ville, à des échelle assez importante. L'autre jour, la Royal British Academy a décerné un prix à Renée Gay-Houstet, qui est une des pionnières. Et puis après, on a vraiment des pionnières. C'est-à-dire qu'on a des femmes aujourd'hui qui ont entre 30 et 45 ans et qui ont le courage d'aller vers des techniques qu'on n'utilise pas encore, ou qui relèvent les défis sociétaux et environnementaux beaucoup plus que leurs confrères masculins. Et là, je pense par exemple à Clara Simet, voilà, et je pourrais en citer d'autres. Il faudrait me laisser quelques minutes parce que je m'excuse auprès d'elle. Il y en a plein. Mais voilà, Clara Simet, Julia Turpin, la ferme du Rail à Paris que vous connaissez peut-être. Il y a tout un engagement derrière, du temps de travail supplémentaire, de la volonté. Et aujourd'hui, je pense que quand on célèbre les femmes architectes, on peut aussi célébrer les femmes pionnières architectes, celles qui ont le courage de relever les défis de la société. Et c'est vrai que à la tête de l'ordre, sans mettre les femmes à l'honneur, j'aime bien aussi pouvoir dire qu'on relève ce défi, et que parfois, peut-être que les femmes ont un peu le courage de renoncer à certaines choses et d'aller vers le changement.
Et au-delà de votre ordre, dans la société, ce que vous percevez, hein, vous sortez beaucoup, vous parlez à beaucoup de gens, c'est vrai qu'il y a eu ce mouvement MeToo, hein, parfois c'est virulent, parfois il y a des épisodes. Et donc, est-ce que vous quoi que dans la société française, il y a une évolution sur ces sujets-là. Il s'agit pas de prendre que le critère du sexe, mais c'est vrai que pendant longtemps, ça n'avait pas tellement changé, peut-être.
Bon, moi, je dirais que l'endroit où c'est encore le plus difficile, c'est le politique. Et ça m'agace fortement. C'est-à-dire que le patriarcat politique, genre vous êtes la petite jeune présidente de l'ordre, même si je suis pas si jeune que ça, à force.
Vous paraissez jeune.
J'ai 43 ans, donc voilà. Mais voilà, qui est à la tête de l'ordre et qui vient me voir, le maire, moi le rapporteur de ce dossier qui a été demandé par le ministre, moi. Et en fait, on nous prend de haut parce qu'on est des femmes. Ça m'agace fortement.
Ouais. Donc ça existe encore.
Oui. Et régulièrement. Alors après, il y a des petites combines. Hein. Bon.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oh bah, faut les taquiner. Oui. Ou clairement, leur dire des choses qui vont les faire réagir et qui vont leur faire dire ah mais c'est pas simplement une femme. En fait, elle est capable de pas baisser les yeux et de remonter un peu la tête. Donc faut les taquiner. Et puis parfois, on n'a pas l'état d'esprit taquin ou un petit peu dérangeant. Donc bon bah, on se dit bon bah c'est pas pour cette fois et puis voilà.
On le sent à vous écouter, et puis la mission même de l'architecte fait qu'il est en phase totale avec la société en général. Bah, la société française, elle traverse une période un petit peu sensible avec ce contexte électoral. On est à deux jours de l'élection des législatives et il y a eu une sacrée surprise, peut-être vers des déséquilibres, hein. Ça change la donne quand, avec cette union de la gauche, des mouvements, et pour certains des mouvements d'extrême gauche, vont arriver en masse à l'Assemblée nationale. De l'autre côté, une déliquescence des partis traditionnels. Quelle est votre lecture de ce qui est en train de se passer ?
Bon, déjà, en tant que présidente de l'Ordre, moi, je fais pas de politique. Donc, je fais de la politique, mais pas politique politicienne. Donc,
en tant que citoyenne française, voilà. Vous voyez des choses,
dans entendez
des choses.
Dans ma mission et ma fonction aujourd'hui, je rencontre autant des gens de La République En Marche que du Parti Socialiste, que d'Écologie Les Verts, que de la France Insoumise, avec la même envie, c'est de traduire et de transmettre nos convictions et ce que nous, on sent d'intérêt général. Ensuite, effectivement, on a eu 5 ans particulièrement difficiles en termes de dialogue démocratique, parce que, en fait, peut-être que vos auditeurs l'ont pas beaucoup vu, mais le cheminement des lois a été souvent très raccourci, avec un simple passage à l'Assemblée et au Sénat, et pour cet équilibre démocratique, pour nous ça a été compliqué. Donc moi, j'ai vrai que j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de débat possible, parce que cette question du débat, elle est importante. Le programme qu'avait proposé la France Insoumise, il y avait dedans énormément de choses intéressantes autour des matériaux biosourcés, par exemple. La plupart des programmes politiques, à part un, allaient dans le sens de mes convictions sur l'étalement urbain, c'est-à-dire qu'il faut le stopper. Et puis après, il y a des sujets dont on parle peu. La politique du logement, moi, je trouve qu'on n'arrête pas d'aller toujours dans la même direction, qui est une direction numéraire, c'est-à-dire de politique du chiffre, qui est importante vu qu'il y a besoin de logements, hein, mais qui ne fonctionne pas depuis 20 ans et qui finalement crée une continuité d'inégalités sociales. Donc il va falloir changer cette politique du logement. Nous, on pense qu'il faut aller vers une politique de l'habitat beaucoup plus élargie. Voilà, après, qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Nous, là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est aussi le sort du ministère de la planification écologique, et savoir si on aura la même ministre dans 5 jours ou pas, et voir comment on va travailler avec ce ministère qui, moi, m'intrigue beaucoup dans son intitulé, mais en même temps me déplaît pas, parce que j'attendais qu'enfin on conjugue logement et défis écologiques. Maintenant, il faut être au niveau, et là par contre j'ai pas encore les repères. Mais s'ils veulent un programme pour leur ministère, j'en ai un. Il suffit qu'ils lisent le plaidoyer de l'Ordre des architectes.
Effectivement, on peut revenir sur vos relations nécessairement étroites, fréquentes avec les responsables du gouvernement sur ces sujets logement habitat. On avait un secrétariat au logement avec, oui, Emmanuel Wargon, et puis là il a disparu, mais l'architecture structure, curieusement, enfin, au premier abord, ne dépend pas du secrétariat au logement. Vous nous racontez ?
Oui, en fait, on est sous tutelle, les architectes du ministère de la Culture. Donc, on a été à l'équipement, et puis il y a eu toute une histoire à un moment donné, en fait, de jeu d'équilibre économique pour gonfler le portefeuille culture, en faisant basculer finalement les écoles d'architecture, notamment dans le volet culturel. Donc, on y est, mais en fait, l'architecture est éminemment culturelle. L'architecture et la création architecturale sont éminemment culturelles. Ce qui est problématique aujourd'hui et qui est reconnu par un certain nombre d'acteurs, c'est la problématique de l'interministériel. Comment on fait quand il y a une loi, quand il y a un sujet, pour travailler en transversalité ? Finalement, que la culture réintègre la ville dans les dialogues et les débats, c'est essentiel. La ville n'est pas un produit purement économique comme on peut le voir souvent. C'est là où on fabrique la société, où les habitants se découvrent, sont ensemble, et donc on a besoin en fait d'un caractère créatif et culturel, c'est indispensable. Mais aujourd'hui, au quotidien, pour nous, c'est très compliqué. Alors, ça nous empêche pas, voilà, d'avoir des relations avec les autres ministères. Là, moi, je suis très contente de la ministre qu'on a, Rima Abdul-Malak, que je connaissais pour l'avoir rencontrée à l'Élysée. C'est une personne très ouverte qui a clairement conscience des enjeux des politiques culturelles et pas que de la culture. Et donc, j'ai vraiment hâte de la rencontrer. Mais mon rapport aux politiques est très important parce que depuis que je suis petite, en fait, j'aime les élus fondamentalement. L'engagement électif, pour moi, il est voilà, c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Et j'aime beaucoup converser et avoir une vraie relation de fond avec les élus politiques avec lesquels je travaille pour que, voilà, on dialogue des problématiques, aller les emmener sur le terrain, leur faire visiter, leur faire prendre conscience, leur faire rencontrer des gens, avoir vraiment cet échange qui ne soit pas simplement il faut faire ci, il faut faire ça, cette loi va pas, ça c'est pas du tout dans le caractère de ce qu'on impulse avec mes compagnons élus à l'ordre.
Alors c'est vrai qu'à votre point de vue, vu de l'ordre des architectes, quel bel observatoire. Et puis, encore une fois, voilà, en tant que citoyenne, on va voir ce qui ressort du scrutin dimanche. Mais comment vous abordez ça ? Inquiète, curieuse, parce que la configuration, elle pourrait pas mal changer dans l'Assemblée.
Oui, bon, moi je dirais que c'est plutôt sur le volet géopolitique que ça m'inquiète que sur le volet des sujets liés à l'aménagement du territoire. Je trouve qu'il faut avoir une image assez renforcée à l'international et au niveau européen. Après, il y a des sujets européens en architecture et en aménagement, mais aujourd'hui c'est ça qui prime, donc cette image-là, il faut qu'on arrive à la conserver. Voilà. Ensuite, qu'il y ait du débat pour les sujets français, et notamment en ce qui concerne la transition écologique, je trouve que là, on a un sujet et qu'il faut qu'on ait beaucoup plus de débats que ce qu'il y a eu ces 5 dernières années.
Comment ça se fait que le débat s'est éteint ? Alors c'est vrai qu'il y a eu la guerre, il y a toujours la guerre en Ukraine, il y a eu le Covid, tout ça a occupé énormément de surface médiatique.
Oui, il y a eu alors ça, on a tendance à l'oublier quand même, le mandat, il a été ponctué d'événements qui pour nous ont aussi été des révélateurs. Hein. Les gilets jaunes, c'est aussi une question liée à l'étalement urbain. Des gens qui habitent loin des centres, qui ont besoin de leur voiture, la ville de la voiture, c'est 40 ans d'aménagement en zoning, hein. Ensuite on a le confinement. Alors le confinement, ça nous ramène à la qualité des logements qu'on construit, à l'espace extérieur, à la ventilation, on pourra en reparler un petit peu après. Ensuite on a maintenant cette crise géopolitique qui nous montre la crise des matériaux aussi, la pénurie de ressources dont nous on alerte sur lesquelles on alerte fréquemment les pouvoirs publics, hein, le zinc, le cuivre, même la question du sable et d'utilisation du béton. Donc en fait, on a été ponctué de crises comme ça, et aujourd'hui, on arrive avec finalement entre ces crises et finalement une Assemblée nationale qui était quand même voilà, unanime. Le lieu du débat pour nous, on l'a plutôt trouvé au Sénat. avec finalement des ancrages territoriaux assez forts, une diversité de points de vue et même des rapports sénatoriaux parfois extrêmement intéressants. Moi, je me rappelle du rapport Yves Dauge sur les centres-villes, par exemple. Bon, bah voilà, là, on a derrière ça, on a quand même quelque chose qui est fondamentalement, il suffit de les ouvrir et de regarder ce qu'il y a dedans pour trouver des solutions. Bon, bah, c'est dommage.
Mais c'est vrai que l'ordre des architectes, c'est pas juste une instance dont sortent des injonctions. Vous faites des études, il y a ce portrait démographique économique de la profession d'architecte qui est fait avec Archigraphie à peu près tous les deux ans. Et vous avez des tendances qui se dégagent et c'est riche d'enseignements.
Oui, alors tous les deux ans, en fait, on livre une étude qui s'appelle Archigraphie qu'on fait avec le Crédoc. Là, on l'a lancée la prochaine et j'ai souhaité qu'elle ait un focus sur la réhabilitation et sur l'engagement des architectes sur la réhabilitation. C'est aussi un moyen de montrer la puissance économique de l'architecture dans le secteur du bâtiment. Je crois qu'on a tendance à oublier la plus-value qu'apportent en fait les professionnels sur le territoire en termes de valeur économique et notamment de durabilité. Et donc sur la réhabilitation, on a un vrai levier d'engagement économique à développer. Je ne parle pas simplement de rénovation thermique, mais bien de réhabilitation, de réaménagement. On parle beaucoup aujourd'hui d'hybridation ou de mutualisation ou alors de réutilisation des espaces. Et là, on est en plein dedans dans cette évolution du métier, cette mutation de nos façons de faire. Là, il y a des gros changements qui se précisent en architecture, sur même la conception. On vit en fait un moment à la fois très angoissant, crise biodiversité, adaptation au changement climatique, matériaux, et en même temps terriblement enthousiasmante parce que les pratiques vont changer et on va aussi voir des nouvelles architectures se créer. Et je pense qu'on est arrivé là un peu au maximum de la standardisation. Vous en parliez tout à l'heure un petit peu. Et on a besoin de retrouver la vraie vocation de la fabrication de la ville à travers la création architecturale.
Super, on va en parler, trop intéressant. J'adore les architectes, vous parlez bien, il y a du sens derrière. On va poursuivre la discussion, un petit moment de musique, ça fait toujours du bien, avec ce titre que vous avez choisi, parce que vous êtes aux manettes de cette émission, je le rappelle, Christine Lecomte, présidente de l'Ordre des architectes, mais vous avez également des goûts musicaux bien marqués, puisque vous avez choisi Pink Floyd, Wish You Were Here. Et ben, nous, on est contents que vous soyez là. Allez, on écoute Pink Floyd.
Merci.
Leave.
Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Oui, on reprend le fil de cette émission, le Mac de Limo, où nous découvrons une magnifique présidente de l'Ordre des architectes. Déjà que le métier est beau, au cœur de la construction, de l'aménagement du territoire, de tellement de choses. Christine Lecomte, merci encore une fois d'être notre invitée.
Avec plaisir.
Et vous étiez en train de parler déjà de vos convictions. Hein. C'est quelque chose qui ressort quand on parle aux personnes avec qui vous travaillez, beaucoup d'engagement. Bah, il en faut quand on sort comme vous 16 mesures, 5 axes, ça y est, la feuille de route est là. Elle va vers quoi ? Il va vers quoi l'Ordre des architectes ? Vous voulez faire bouger les choses dans quel sens ?
Bah, de toute façon, déjà, on l'a appelé plaidoyer. On plaide. On plaide pour qu'enfin, on regarde l'aménagement de la planète autrement. Et qu'on prenne en compte la vulnérabilité de la Terre, de nos ressources, qu'on arrête de réfléchir sous le prisme uniquement économique. Donc, dans ce plaidoyer, il y a d'abord un constat collectif qu'on partage tous les architectes qui avons travaillé dessus. Comme je disais tout à l'heure, en fait, on a été les 300 élus de l'Ordre à travailler sur ce document tous ensemble. Et on en a tiré 5 axes de positionnement fort qui vont de l'équilibre des territoires, qui nous semble indispensable à retrouver, question de la métropolisation, de l'opposition entre les villes et les campagnes, de la question de l'occupation de ces villes moyennes aussi, jusqu'à finalement la question de la matière et des matériaux. Et entre tout ça, voilà, on a 5 axes, donc l'équilibre des territoires, la politique de l'habitat plutôt qu'une politique de l'aménagement du nombre, la réparation de la ville. Pour moi, c'est un terme extrêmement important, cette notion de réparation, dans le sens comment on réhabilite, mais aussi comment on recrée, comment on réinvente, comment on réimagine à partir de l'existant. Ensuite, on a un axe sur les changements de pratiques sur lequel je pourrais venir, mais qui développe surtout la culture du risque collective. Et puis le fait que tous les acteurs du bâtiment, on devrait avoir un minimum de convictions communes et de positionnement commun qui devrait nous obliger en tant qu'acteurs de la ville, et on ne devrait pas avoir la possibilité de faire autrement. Je crois que là maintenant c'est essentiel. On n'est plus au moment de la transition, on est au moment de l'action. Et le dernier point, c'est vraiment la valeur économique de la filière architecture. Comment on va décarboner, comment on va adapter et comment on crée des nouvelles filières autour du réemploi et autour des matériaux bio et géosourcés. Et là, pour moi, c'est une petite passion. Le matériau soignant, le matériau qui fait du bien. Je pourrais en parler pendant des heures, mais effectivement...
Alors, commençons un petit peu, parce que quels sont les matériaux privilégiés qu'il faut privilégier ?
Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut réouvrir la panel des matériaux qui sont à notre disposition et aussi penser ceux qu'on a à côté de chez nous. Donc nous, on parle beaucoup d'architecture de circuit court, un peu comme l'alimentation, vous voyez, on y revient. C'est-à-dire l'idée que finalement, par exemple en Ile-de-France, on a une filière chanvre qui s'est structurée. Comment est-ce que nous, architectes, et comment nos commanditaires, on arrive finalement à structurer ces filières? Alors quand j'étais à l'Ordre des architectes d'Ile-de-France, on avait créé un comité régional des matériaux biosourcés. Donc l'idée était, avec la chambre d'agriculture, de porter ces filières comme une valeur économique tracée, c'est-à-dire de l'agriculteur jusqu'au prescripteur et à l'entreprise de construction. On essaye de tous monter en compétences en termes de savoir-faire, mais également quand un agriculteur produit du chanvre, il vient nous voir et qu'il nous dit « Oh les copains, si vous prescrivez pas et si les élus ne souhaitent pas par exemple isoler un bâtiment en chanvre, on n'y arrive pas. On a besoin de ces filières économiques. » Là aujourd'hui, moi c'est un peu le message que j'ai envie de lancer au gouvernement sur ces filières. Donc dans notre plaidoyer, on en parle. C'est-à-dire le plan de relance post-confinement, rénovation thermique d'un ensemble de bâtiments publics quand même assez important. Et là, on dépense, mais sans penser que ça peut devenir un investissement dans les filières de proximité. Donc voilà, nous, on a envie d'inverser la tendance et de devenir malin. Et je pense que là, aujourd'hui, une nouvelle politique du logement, elle doit devenir une politique maligne et pas une politique qui reprend des vieilles recettes avec des vieux pots qui n'ont de toute façon pas marché. On sait que quand on crée aujourd'hui 300 000 logements neufs en France, en parallèle, dans d'autres lieux, il y en a 100 000 qui deviennent vacants. Ça, c'est la ville facile, en fait. Voilà, on se dit, allez, on crée, mais on regarde pas ce qu'on gaspille, ni en termes de matière, ni en termes de territoire et de terrain, de sol. Et ça, pour moi, il y a vraiment un changement à faire.
C'est vraiment intéressant parce que, en plus, pendant la campagne présidentielle, même si le logement était peu évoqué, on regardait les chiffres qui étaient lancés. Alors, certains disaient, en partie, il faut créer 500 000 logements,
veut, hein.
L'autre 300 000, etc. Et puis, dans votre propos, effectivement, on se rend compte, tourner le regard vers des logements vacants. Vous dites, on recense 2 à 3 millions de logements vacants, dont 600 000 à 700 000 dans les villes moyennes. C'est l'équivalent de 2 années de construction neuve. Donc finalement, est-ce qu'il faut construire ou non?
Oui, il faut construire. Ces logements vacants, ils ne sont pas tous disponibles. Et pour l'instant, il y aura un rééquilibrage des territoires à faire. Mais on en compte, par exemple, 600 000 dans les villes moyennes. Mais il n'y a pas que les logements vacants. Il y a aussi les friches. On a 2700 friches en région parisienne, 4000 hectares de friches. Donc avant d'aller s'étaler encore plus, on a 4000 hectares de friches. Et ça, vous vous rendez compte, c'est là où est notre potentiel foncier dans les villes. Avec peut-être une manière de les aménager où là, on a une vraie possibilité d'intérêt général. Comment on aménage, comment on adapte ces lieux à partir de ce qui est déjà là sur ces territoires. Donc non, on a à réouvrir une politique qui a trouvé des solutions autres. Aussi dans le flux et dans le parcours résidentiel. On ne peut pas continuer de proposer uniquement d'un côté de la maison individuelle et de l'autre côté du logement collectif qui d'ailleurs pour les promoteurs arrive un petit peu à terme puisque on le voit bien, les élus ne donnent plus de permis de construire. On a un espèce de refus de ces permis. Notamment
c'est un peu idéologique parfois.
C'est idéologique mais c'est aussi lié à la qualité de ce qui est produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui est-ce qui a envie en tant que citoyen d'avoir dans la parcelle qui avant était occupée par trois arbres et qui vous laissait une belle vue, un immeuble qui ne vous apporte rien à part finalement des désagréments, personne.
Donc c'est, il faut loger les gens aussi.
Il faut loger les gens, mais il faut aussi apporter quelque chose à la ville quand on construit. Et c'est là où finalement la notion de construction, c'est pas simplement un produit économique, mais ça devient un patrimoine collectif après. Et typiquement, quand on construit aujourd'hui dans un îlot où il reste une seule dent creuse qui va être construite, on ne peut pas imaginer que ça soit uniquement du remplissage de logements, mais que c'est peut-être à partir de ce bien qu'on va réouvrir une venelle qui nous fait découvrir le cœur d'îlot, ou qui permette aux enfants d'aller à pied à l'école, ou qui crée un espace collectif dont on avait bien besoin au cœur du quartier. Donc aujourd'hui, une parcelle libre, c'est bien plus qu'une notion et une possibilité de faire un bien économique.
On sent votre force de conviction, Christine Lecomte, présidente de l'Ordre des avocats. On va écouter justement une personne qui travaille avec vous, justement en charge du plaidoyer, c'est le moment. Marie-Aude Bailly-Lebars, eh bien, c'est son moment, on l'écoute. Marie-Aude Bailly-Lebars, bonjour, vous êtes directrice de l'action politique à l'Ordre national des architectes, bonjour. Vous travaillez avec Christine Lecomte, qu'est-ce qui se dégage de cette présidente?
Alors un grand dynamisme à la première rencontre, une force de conviction et la motivation qu'elle porte en elle dans ses fonctions, dans son amour du sujet qu'elle défend et l'envie de s'inscrire dans ses pas et de travailler à ses côtés. Voilà.
Alors c'est vrai qu'il y a des femmes pour gravir les échelons. Un président de cet ordre, c'est quand même vraiment une situation très noble. Parfois, elles pourraient perdre de leur douceur. Est-ce que c'est son cas?
Non, absolument pas. Elle allie l'engagement, le pragmatisme à une grande bienveillance, même à de la douceur. On peut penser initialement un peu de froideur, mais ça je le dis souvent, c'est le respect de l'autre, d'être attentif à l'autre qui lui donne cette réserve et derrière cette réserve, il y a une grande bienveillance.
Alors les architectes, ce sont des personnes qui ont fait de longues études, ils ont des analyses, ils ont beaucoup d'avis, donc gérer entre guillemets, ordonner, superviser cet ordre, c'est pas une mince affaire, il faut beaucoup de qualité. Qu'est-ce que vous décelez chez Christine Lecomte?
Je vous l'ai dit, de la motivation, du dynamisme, une grande capacité de conviction, une force de travail, évidemment. C'est quelqu'un de très engagé, qui croit à son discours, qui est tout à fait sincère et qui se défonce pour ses causes et puis pour la mission qui lui a été confiée.
Peut-on en quelques mots évoquer l'une des causes? Qu'est-ce qui lui tient à cœur précisément dans votre feuille de route à toutes les deux?
que l'architecture soit vue comme une solution à de nombreux problèmes qui se présentent à nous dans notre vie de tous les jours. Là encore, une solution pragmatique à notre vie. Et elle a décliné ça dans un plaidoyer qu'elle, jour après jour, qu'elle porte et auquel elle croit.
Merci beaucoup pour cet éclairage. Au revoir.
Merci.
Voilà un mot qui revient de manière récurrente avec vous, conviction. Alors, si demain vous êtes ministre du logement, on aimerait bien avoir un ministre du logement en France, comment mettez-vous en œuvre le changement que vous préconisez ?
Bah, de toute façon, déjà, je pense qu'il faut rassembler les acteurs. On a besoin d'états généraux du logement avec une parole qui puisse déjà écouter tout ce qu'il y a à dire, mais surtout dire aux gens, à la suite de ces états généraux, on va tous changer. On va tous devoir bouger, on va tous devoir cranter. Et je pense qu'autour de la table, j'oublierai pas les assurances et les banques. Ce qu'on fait souvent, on oublie les banques. Et quand effectivement, on a nos amis, les promoteurs, parfois qui ont des difficultés à pouvoir bouger les tableaux Excel, des opérations immobilières, on a envie de leur dire, mais de toute façon, quand on se voit, on voit jamais les banquiers avec vous, alors que c'est eux qui vous forcent à avoir les 8% de marge. Voilà. Et puis, on va avoir besoin aussi d'acteurs fonciers, donc les notaires, voilà, par exemple, qui commencent aussi à bouger, à nous dire, on pourrait peut-être envisager la question du foncier différemment. Donc, je crois qu'on est pas mal d'acteurs à bouger, mais que les pionniers dans nos métiers, on les met pas en valeur. Et c'est là où, en fait, si j'étais ministre du logement, j'irais chercher les pionniers et je travaillerais sur les process des pionniers pour que ça devienne plus une pratique extraordinaire, mais une pratique ordinaire.
Alors, c'est curieux parce que les causes dont vous parliez, il faut faire comme si, faut utiliser les bons matériaux, bah, souvent, les gens sont d'accord, mais ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, on a des architectes qui sont souvent contraints dans leur créativité par leurs normes et même par les visions propres des élus locaux. Est-ce que c'est pas ça le plus difficile ?
Bon, les normes, c'est vrai, c'est un sujet. Mais on a des architectes qui y arrivent. Mais c'est peut-être ceux qui sont le plus convaincus. Les pionniers dont je parlais tout à l'heure. On a des architectes qui construisent en pierre massive, en terre, en béton de chanvre, donc en bois. Voilà, ça c'est assez maintenant courant. Donc ça c'est un sujet. Les normes c'est un sujet. Les ATEX, la question d'avoir en fait des possibilités d'expérimenter, c'est un vrai sujet. Ensuite c'est la chaîne de valeur qui pose problème. Moi, en tant qu'architecte, quand je construis pour un promoteur, je ne vois pas les élus, je ne vois pas les habitants, je vois juste mon commanditaire. Et donc on est dans une relation de client à fournisseur. Et là il y a un sujet parce qu'au fond, même si ça semble naturel, comment on fait pour construire l'avenir des gens et des habitants, c'est-à-dire le dessin, ce qui va rester finalement quand on n'a pas le droit de leur parler ou de les voir?
C'est difficile.
Voilà. Donc aujourd'hui il y a un peu des contradictions comme ça, très fortes. Et puis nous on sent bien, on est titillé par des nouveaux modes de faire, par exemple le réemploi. Je veux dire, aujourd'hui, il faut qu'on arrive avec notre conviction à convaincre nos maîtres d'ouvrage que le réemploi est une nécessité. Et là, il y a aussi un sujet sur comment on va faire avec les assurances, comment on forme les gens. Donc, on en revient à la question de la pédagogie, de la culture commune, de la formation et aussi du dialogue. Et le rôle de l'État, là, fondamentalement, il est d'offrir ces possibilités aux pionniers de faire. Et c'est pas toujours le cas parce que même si certains lobbies valorisent des pratiques un peu extraordinaires en disant moi je fais ça, etc. Bon, parfois c'est un peu greenwashing hein, quand même, on va pas se le cacher. Mais surtout, derrière la production ordinaire qu'ils font, c'est du tout venant. Et c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que de têtes de gondole aujourd'hui. On a besoin que ces têtes de gondole deviennent la production ordinaire.
Alors, vous proposez de limiter l'urbanisation des terres non bâties, de privilégier l'amplification, oui, la rénovation, oui, de l'existant. Ben, c'est quand même un changement de paradigme hein, pour la profession.
Oui et non. C'est-à-dire que concrètement, avant le XXe siècle, on a toujours fait la ville avec la ville en sédimentation. Finalement, bon, si vous voulez, lisez Ivan Illich, La convivialité, vous verrez qu'on a perdu beaucoup au XXe siècle en gagnant beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on gagnait la technique, on a perdu beaucoup de choses dans la compréhension et le bon sens. La ventilation naturelle, la question de l'ouverture des fenêtres, l'orientation du bâti, la masse thermique des matériaux, au profit finalement de constructions extrêmement standardisées, etc. Donc aujourd'hui, voilà, on doit retrouver ce bon sens.
J'adore cette phrase, le sol est le patrimoine de la nation. Vous le reprenez à votre compte ?
Oui, c'est l'article 1 du code de l'urbanisme.
Ça veut dire beaucoup de choses.
Pour moi, c'est essentiel, c'est fondateur. Au même titre que l'article 1 de la loi sur l'architecture en 77, si vous mixez les deux, vous avez presque une définition possible de la ville. Vous avez dit tout à l'heure que l'architecture avait aussi un volet philosophique, mais heureusement, on a effectivement dans nos études un volet philosophique. Mais moi, une des phrases que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, c'est pour moi, la ville devrait être la spatialisation de la démocratie.
Voilà. C'est magnifique, c'est bien dit, on comprend ce que vous voulez dire. Et bah, y a peut-être un autre adage, mais je ne sais pas si l'équation justement est soluble, je vous la pose. Construire mieux et moins cher, est-ce que c'est une utopie ?
Bah, ça dépend si vous voulez construire plus vite ou pas, parce qu'effectivement, si vous voulez tout faire, on ne fera pas tout de suite. Mais par contre, construire mieux et moins cher, ça, j'ai aucun doute, oui. Mais la question, pour moi, ce n'est pas que ça. La question aujourd'hui, c'est aussi construire bien. Construire confortable, construire avec finalement moins de standardisation mais plus d'envie d'habiter. Et l'envie d'habiter aujourd'hui, elle est essentielle notamment pour nos aînés. Vous voyez par exemple la déconnexion qu'il y a eu, là il y a eu un scandale autour des EHPAD, la déconnexion qu'on a pu avoir sur le débat public entre les EHPAD et même et l'aménagement du territoire. On n'en parle pas assez, mais c'est un scandale que ces bâtiments soient le long d'un rond-point, loin de toutes les aménités urbaines. La plupart du temps, c'est ça quand même dans les villes moyennes.
Tout à fait.
Et on est dans un... On peut y aller voir ses grands-parents uniquement en voiture. Ça veut dire que, de toute façon, s'ils avaient la possibilité de sortir, ils ne pourraient pas. Il n'y a rien autour de chez eux. En fait, enfin, voilà, il faut qu'on arrête de penser la ville de toute manière trop sectorielle. Pour nos aînés et pour le vieillissement de la population, on a aussi à repenser les villes. Et d'un autre côté, prenons les enfants. En 1950, ils avaient 95% de chances de plus de pouvoir se déplacer en ville. Aujourd'hui, on appelle ça les enfants points. En sociologie, qui passent d'un point à un autre. Ils passent de leur canapé à la voiture qui les emmène devant leur prof, qui les emmène au sport éventuellement si leurs parents ont la chance de pouvoir les mettre au sport, qui les ramène chez eux. Moi, j'aimerais et j'aspire aujourd'hui à pouvoir dire à mes enfants « Au revoir, passe une bonne journée et va à pied à l'école. Tu peux aller m'acheter ça. » Aujourd'hui, il y a des endroits où on ne peut pas laisser cette autonomie à nos enfants. Et j'estime qu'à 10-12 ans, on devrait pouvoir envoyer son enfant en ville sans avoir peur.
Une sécurité qui n'est pas assurée.
La question de la voiture. Regardez l'aménagement de la ville. On est dépendant de la voiture depuis 40 ans. On a créé les conditions de la dépendance à la voiture. Ouais. Totalement. Le manque de proximité par l'étalement urbain, en fait, finalement, on a éloigné la possibilité de vivre ensemble en ville. On a favorisé un urbanisme très individuel et ce profit vers l'individualisme qui a un intérêt, finalement, poussé à outrance. Parce que là, loin de moi l'idée d'aborder une politique extrêmement, j'allais dire presque communiste, c'est pas ça. C'est qu'on a été tellement loin qu'aujourd'hui on a perdu le sens de la fabrication de la ville. C'est ce sens qu'il faut retrouver.
Vous n'êtes pas toute seule à réfléchir à la conception de la ville. Il y a également Alexandre Labasse qui est le directeur général du pavillon de l'Arsenal, architecte aussi. On va l'écouter. Alexandre Labasse, bonjour, vous êtes architecte, directeur général du pavillon de l'Arsenal et donc Christine Lecomte, vous la connaissez très bien, vous pourriez m'en dire quelques mots ?
Christine Lecomte, je la connais parce qu'on partage une aventure tous ensemble, enfin avec elle notamment, c'est l'aventure FAIR, c'est l'accélérateur de projets urbains architecturaux qu'on a lancé en 2017 pour favoriser la recherche en architecture, la recherche sur les grands sujets de société, l'économie, l'écologie, la matérialité des choses, Et depuis le premier jour où on a lancé cette idée, elle nous a accompagnés avec l'ordre régional puis avec l'ordre national. Et c'est comme ça qu'on a un petit peu sympathisé et découvert finalement d'autres façons de pratiquer notre métier.
Donc les adjectifs qui vous viennent à l'esprit, alors ça veut dire qu'elle est ouverte, elle est innovante. Quel autre concept avez-vous envie d'employer à son égard?
Elle est d'abord combative, elle est combative pour les architectes, elle les défend, elle les aime, elle les entoure, elle les encadre, et Dieu sait que la profession en a besoin. Et puis ça c'est auprès de nous tous, tous nos confrères, et puis d'un autre côté, elle allie un peu la phrase dans un Gramsci, vous savez, le pessimiste de l'intelligence et l'optimiste de la volonté, parce qu'elle essaie de faire bouger les lignes, de les faire évoluer en étant consciente de la difficulté de nos métiers, de la difficulté d'aménager la ville, et de construire demain, donc elle essaie de faire évoluer tout ça dans un même mouvement, et c'est assez formidable.
Elle vous écoute, là, elle est sur le plateau. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire?
Continue, Christine, continue. Continue, accompagne-nous, accompagne les architectes, défends-les, défends ces questions de savoir-faire, de technicité, de compétences que porte cette profession. On en a besoin dans une complexité de l'immobilier aujourd'hui toujours plus enclin à diversifier la commande, à trouver des solutions quelquefois pour enlever de la compétence d'architecte qui est première pour faire une ville vertueuse demain.
Merci infiniment, Alexandre Labasse. Merci, au revoir.
Merci à vous.
Christine Lecomte, d'être accompagnée par des grands professionnels comme ça, les entendre, qu'est-ce que ça vous fait?
Oh bah moi, je les admire beaucoup. En fait, je pense que si on n'était pas une forme de réseau comme ça, de gens motivés, convaincus, on abandonnerait rapidement. Mais là, ça se fait naturellement, c'est-à-dire que vous en avez plusieurs. Vous voyez, hier, moi, j'étais au téléphone sonne sur France Inter, et en sortant, j'avais un message d'un ami qui est un éminent confrère. Et oui, ça remonte. Voilà, il y a quelque chose d'assez fort dans les mots d'Alexandre. C'est vrai que lui a une force de conviction, et que là où il est, au pavillon de l'Arsenal, il porte un projet qui est extrêmement intéressant, qui est cet accélérateur fer, qui valorise en fait l'innovation architecturale, mais dans tout son éventail de capacités à innover. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à l'innovation architecturale. On innove directement. L'architecture, c'est de l'innovation. À un moment donné, il y avait une étude qui était faite, on nous disait « Quelle est la part d'innovation dans votre métier ?» Mais en fait, c'est quand on fait des études d'architecture, on est en permanence dans l'innovation. C'est le travail. Ce qui est compliqué, c'est quand on arrive dans la vraie vie d'architecte, parce qu'on nous brime totalement.
Dans l'innovation sur les matériaux, le dessin, sur...
Alors, les matériaux, mais également la société. Je veux dire, l'approche sociétale de l'espace. Ça, c'est extrêmement important. Comment ça évolue? Je vais peut-être donner quelques petits exemples de l'accélérateur fer, mais on a eu des réflexions innovantes sur la mutation du tissu pavillonnaire qui sont arrivées des architectes. On a eu, là, en ce moment, il y a une étude qui est en train d'être menée par le pavillon avec Bond Society, je crois, sur... Avec une autre agence d'archi, Majma, sur time, c'est-à-dire comment est-ce que les habitants qui habitent un peu à Paris et un peu ailleurs, et comment est-ce qu'ils vivent, où est-ce qu'ils se logent. Et en fait, on a aussi des réflexions sur les usages, et puis sur les techniques, sur des techniques propres à des territoires. Et quand on a la chance d'accompagner cet incubateur fer, en fait, on redécouvre l'essence même de notre métier, et je crois que ça peut faire bouger les lignes. D'ailleurs, ça le fait bouger, hein, c'est clair. Et c'est ces petites pierres posées tour à tour par l'ensemble de mes confrères qui osent, qui moi aussi me donnent envie de continuer.
Et justement, on en vient de l'innovation à la qualité des logements. C'est pas nécessairement dans la domotique le logement le plus connecté. Qu'est-ce que c'est la qualité du logement? On parle, les 60 millions de Français, voire plus, ont le droit déjà au logement, au bien-être.
Oui. Non, mais j'avais envie de peut-être qu'on termine l'émission là-dessus, parce que c'est l'un des postes sur lequel les architectes travaillent le plus, et notamment le logement collectif, la relation avec la promotion immobilière. Aujourd'hui, on a une grande évolution à faire autour des modalités de fabrication du logement collectif. Il faut qu'on diversifie les modes de fabrication, qu'on aille peut-être vers de la coopérative d'habitants, du logement participatif, de l'habitat participatif, mais également conserver le modèle de la promotion, mais différemment. Il faut que ces modèles puissent intégrer des nouvelles qualités de logement. On ne peut pas continuer à faire du logement de 18 mètres carrés, séjour, cuisine, compris, sans les mètres carrés du hasard dont parle Catherine Sabat à Idéal, sans un hall ou au moins un espace où vous puissiez vous déchausser avant de rentrer chez vous. Regardez les petits logements qui viennent de la défiscalisation Pinel. On ne peut plus appeler ça des logements, on appelle ça des produits. D'ailleurs, votre banquier vous dit j'ai deux choix de produits, un T2, un T3. Vous savez à peine si c'est à Montrouge ou à Bayeux.
C'est vrai.
Et ça, c'est un sujet. C'est-à-dire que on a transformé le logement en un produit fiscal. Ça nous fait éminemment peur et ça nous rend triste, les architectes, de dessiner des produits fiscaux, parce que c'est pas notre formation et c'est pas notre vision de la ville. Nous, on construit de l'habitat pour des gens qui vont être dedans et qui, en temps de canicule, vont avoir besoin d'ouvrir leur fenêtre et de faire un courant d'air. Et ça, quand même, c'est pas compliqué de nous laisser le faire.
C'est vrai, on le voit, le débit est rapide, l'enthousiasme communicatif. C'est Christine Lecomte à la tête de l'Ordre des architectes. C'était notre invitée pour le Mac de Libo. On est très contents parce que ça touche au logement, la créativité, l'innovation. On a bien compris que vous souhaitez retrouver le lien avec les habitants et les élus. Merci Christine Lecomte
d'avoir été pour cette
notre invitée. Et puis on écoute l'un de vos titres, encore une fois, c'est votre émission et la musique que vous avez choisie, c'est Creep de Radiohead. Merci Christine Lecomte, bon week-end.
Merci.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.immo et toutes les plateformes de streaming.